Interview.
2 pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou sur le 101.7 à Lucandiwa. L'émission est aussi mise ensuite en podcast sur le site www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Monsieur Hervé Jasson. Bonjour.
Bonjour.
Hervé Jasson, vous êtes bénévole au sein de l'association L'Aspace. On peut préciser peut-être aussi l'association pour la protection des animaux sauvages, une association créée en 1981. Et vous allez nous expliquer d'ailleurs ce qui a motivé sa création à cette époque-là. Et donc je commencerai par vous demander, quelle est chez vous cette passion qui vous a amené à agir au sein de l'ASPAS ?
Très bien, la question est large, mais... Les motivations, je pense, d'un certain nombre d'administrateurs, des personnalités fortes dans la défense, la plupart d'entre eux sont des naturalistes de renom, devant la perte et les difficultés que rencontre aujourd'hui le vivant, se sont décidés à créer cette association qui est devenue très rapidement une ONG, et qui a pour vocation de défendre globalement le vivant, avec 2 grandes missions. Une première qui est effectivement, comme le signalait Yves Glorian, la défense des méconnus ou la défense des animaux sauvages, et dont certains sont, ce que j'appelle les méconnus, sont les laissés pour compte. Je citerai simplement le renard, le blaireau et bien d'autres. Et puis une deuxième chose très importante pour l'ASPAS, c'est la création, on en parlera sans doute, parce que ça tient une place énorme dans la vocation de l'association devenue ONG, ce sont les réserves de vie sauvage. Voilà en gros comment on peut résumer les objectifs de cette association.
Et donc l'action de l'ASPAS se concrétise principalement dans la Drôme à l'heure actuelle, mis à part un territoire aussi en Bretagne. Qu'est-ce qui a permis d'abord de choisir ce territoire, l'Auvergne-Rhône-Alpes? C'est pour sa diversité ou qu'est-ce qui vous a intéressé?
Alors, je vais être très franc, je ne connais pas les raisons exactes qui ont poussé nos administrateurs, enfin les créateurs de l'association, à s'orienter vers la Drôme. Je pense qu'il était pour eux important de ne pas rentrer géographiquement dans ce qu'on peut appeler les grandes métropoles et d'essayer d'excentrer l'activité et le développement de cette association. Alors, très honnêtement, je ne saurais dire pourquoi la Drôme. Il est effectif qu'on est très présent dans la Drôme, mais je voudrais rectifier une chose. Nous sommes... L'activité de l'association est nationale, avec des réserves qui viennent d'être signalées, entre autres dans le Trégor, en Bretagne, et également une réserve de vie sauvage, enfin réserve actuellement dans l'Hérault, la réserve de Rancasse dans l'Hérault, qui représente quand même 200 hectares. Pour la Drôme, où se concentre l'activité de réserve, des réserves de l'association, nous avons effectivement 3 grands ensembles. Les 2 lacs qui sont situés à Châteauneuf-du-Rhône. On a également le Grand Barry qui est sur la commune de Vérone et la Vercors Vie Sauvage qui se situe à Lioncelles, qui est la plus importante, qui représente à peu près 500 hectares, un tout petit peu moins de 500 hectares. Ce sont donc des surfaces importantes qui sont laissées en libre évolution. On en parlera tout à l'heure, c'est un des sujets forts de l'ASPAS. Et puis, l'idée, on n'abandonne pas la possibilité de mettre en réserve d'autres grandes surfaces, soit par acquisition, soit nous en parlerons aussi, un des projets importants qui va venir cette année, c'est ce qu'on appellera et qu'on détaillera peut-être tout à l'heure, les havres de vie sauvage, qui sont une possibilité pour l'ASPAS d'augmenter les surfaces de libre évolution sans avoir tout le, je vais dire, la lourdeur de gestion de ces surfaces. Et en plus, ne nous le cachons pas, le coût d'acquisition qui n'est pas simple à gérer pour l'association. Bon.
Ces acquisitions de territoires s'opèrent par des demandes de financement participatif ou par dons, ou c'était pour une réserve qui se trouve à Châteauneuf-du-Rhône.
Ouais. Et alors celle-là, c'est certainement une de celles qui nous a coûté le moins, puisqu'elle nous a été cédée par la FRAPNA au franc symbolique. C'est une réserve d'une soixantaine d'hectares qui est pour nous importante parce qu'elle représente elle est constituée de deux lacs qui sont importants à double titre. Ils sont un relais pour les oiseaux, pour la vie faune, entre la Camargue et les étangs des Dombes, enfin dans l'Ain. Donc on a souvent pas mal de passages et des observations très intéressantes. Le deuxième point, donc en gros 40 hectares de zone humide et au total 60 hectares avec des ripisylves assez riches. La difficulté de cette réserve, elle correspond bien à notre cahier des charges puisque la FRAPNA ne pouvait pas s'en occuper. Donc on peut dire qu'elle avait déjà une vocation de libre évolution. La seule difficulté de cette réserve, c'est qu'elle est très proche de zones fortement anthropisées et on a quelques soucis, on se doit d'être assez vigilant vis-à-vis, entre autres, du milieu de la chasse, de la pêche, qui ne jouent pas toujours le jeu, puisque pendant des années, ces surfaces ont été laissées en liberté, entre guillemets. Et donc, il est évident que, qu'on soit chasseur ou qu'on soit pêcheur, on avait tendance à se considérer un peu chez soi. Donc, la remise en place de tout ça se fait parfois avec quelques tensions. Je signalerai à ce moment que, pour éviter ce genre de choses, l'ASPAS a mis en place un certain nombre de points dont je fais partie en tant que bénévole à titre de sentinelle, c'est-à-dire que une sentinelle à l'ASPAS, c'est quelqu'un qui vient surveiller de façon très aléatoire un territoire et qui a deux fonctions, soit effectivement de relever des infractions, mais ce n'est pas l'essentiel de notre boulot. Notre travail est essentiel, c'est d'apporter de l'information au public qui pourrait se rendre sur ces surfaces et d'échanger, de dialoguer avec des gens. On a souvent des contacts très, très positifs à ce niveau-là. Le deuxième point, puisque j'évoquais parfois quelques tensions avec des milieux de pêche ou des milieux de chasse, l'ASPAS finance, à partir de bénévoles, la formation de gardes-chasse assermentés. Donc, je peux vous dire très, très clairement que quand on a un problème sur une réserve et que la tension... Enfin, le dialogue devient beaucoup plus fluide à partir du moment où vous voyez quelqu'un qui arrive avec une petite mention garde-chasse ou garde-pêche sur le pull. Et alors qu'en tant que bénévole et sentinelle, on évite la confrontation. Ne parlons pas systématiquement de confrontation, mais ça arrive. C'est beaucoup plus délicat à gérer quand on relève une infraction sur une réserve. Alors la plupart du temps, c'est souvent le cas sur cette réserve des deux lacs qui est très accessible. Mais voilà, on pourrait avoir des problèmes équivalents sur d'autres réserves. Je pense que dans l'ensemble, on essaye de gérer ça au mieux et d'avoir une communication la plus constructive possible avec ces milieux de la chasse et de la pêche. Voilà.
Justement, comment se détermine l'acquisition d'un territoire? Comment se négocie, entre quelque sorte, entre guillemets, je dirais, cette accaparation de terres qui était antérieurement voué à la chasse, et comment essayer de faire comprendre justement à ces pratiques de chasse comment justement tirer un trait.
Alors tirer un trait, tirer un trait, je pense qu'on tend vers, parce qu'on s'aperçoit quand même que la population des chasseurs, qui ne représente, il faut le signaler, que 2% de la population française, attendant, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens concernés par l'environnement et la sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, et je pense qu'ils sont très supérieurs à 2%. Ceci mis à part, les opportunités d'acquisition, je ne les connais pas toutes, soyons francs. Mais je pense que la plupart du temps, on a une équipe, un pôle qui s'appelle qui s'occupe des milieux naturels, dont c'est la fonction d'être à l'écoute d'opportunités foncières qui peuvent s'avérer intéressantes pour les objectifs de l'ASPAS. Il y a également, ne l'oublions pas, une démarche aussi volontaire. On est une association qui a cette réputation de sérieux, et on a pas mal de propriétaires qui s'adressent directement à nous, soit par des legs, soit par un souci souvent d'avoir une force d'appui juridique pour éviter justement ces conflits avec la chasse et autres. Et donc, dans un des pôles importants de l'ASPAS, on n'en a pas encore parlé, c'est son pôle juridique. On est directement sur CREI. On dispose d'un pôle de 5 juristes, plus une stagiaire, qui s'appuie également sur des confrères extérieurs dans différents départements. Et ce pôle a mis sur point plusieurs procédures qui permettent à des particuliers qui ne souhaitent pas éventuellement que leur qui disposent de territoires relativement importants, de pouvoir adopter un statut de refuge. Tout simplement, l'ASPAS, juridiquement, prend en charge le droit de chasse, qui est souvent développé par des associations communales de chasse ou autres. Et ce sont des possibilités de synergétique qui sont renouvelées, enfin un cadre synergétique qui est renouvelé, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est tous les 5 ans, un peu comme des beaux... comme un bail de chasse, appelons ça un bail, et l'ASPAS va se substituer tous les 5 ans, on a la possibilité de renouveler ces baux, et en fait on apporte aux particuliers qui souhaitent ne plus avoir de pression de chasse sur leur terrain, on récupère ce droit de chasse. Les gens restent propriétaires de leur terrain, mais avec une forme de protection juridique. Et là, quel que soit le particulier, ils peuvent très bien s'adresser directement à l'ASPAS pour obtenir un dossier très bien fait d'ailleurs. Je vous invite d'ailleurs à ce titre d'aller jeter un coup d'œil sur le site de l'ASPAS qui est remarquablement bien fait et qui détaille bien tous les objectifs et les compétences de cette association. Voilà.
Sur le territoire de la Drôme, vous avez combien de personnes qui travaillent autour de l'ASPAS ?
Alors directement pour l'ASPAS, il y a 26 salariés qui sont répartis sur 5 pôles avec des activités différentes. On a un pôle associatif, un pôle communication et développement, un pôle juridique, un pôle milieu naturel et un pôle financier et ressources humaines. Voilà. Au-delà de ça, l'essentiel des actions est dévolu aux bénévoles, mais avec une articulation forte sur... alors pour la Drôme, c'est particulier, puisqu'on a quand même pas mal de réserves, donc on travaille en étroite collaboration avec le siège. Et sur les autres départements, ce sont plus des relais d'information, des relais également d'écoute, qui porte la bonne parole de cette ONG aux différents publics qui sont demandeurs, soit à travers des manifestations locales, soit au niveau d'intervention possible, ce que nous faisons de temps en temps auprès des écoles. Alors, les informations qui sont la plupart du temps pédagogiques au niveau scolaire, c'est plus sur la sauvegarde et la protection des animaux. On ne s'embarque pas avec les élèves dans les problèmes fonciers, mais on leur fait quand même la sensibilité. Il faut les sensibiliser également. Je pense qu'un animal sauvage ne peut vivre correctement que si sa maison est correcte. Et là, les enfants, ils sont assez sensibles. Donc, on peut aborder cette notion de réserve, voilà, avec eux sans problème sous cet angle.
Tout à l'heure, vous parliez de prise de contact par des propriétaires afin d'avoir accès à vos services ou à votre compétence. Comment, justement, s'opère cette prise de contact est-ce que vous vous faites connaître plus au niveau des acteurs et des décideurs qu'au niveau du grand public à l'heure actuelle? Et justement, est-ce que vous êtes en train de travailler sur, une reconnaissance publique aussi de vos activités?
Alors, il y a deux choses dans votre question. La reconnaissance publique, je crois qu'on en a parlé encore assez récemment. Elle touche plus le conseil d'administration et surtout les salariés, l'ensemble des pôles concernés en termes de communication. Je crois qu'on est sans doute, mais ça c'est un avis personnel, pas assez connu. Peut-être un peu trop discret, mais je pense que le travail qui est fait en termes, notamment au niveau des acquisitions, quand on voit les pressions qui sont exercées par certains lobbies extérieurs, on ne peut que se vouer à une discrétion pour aboutir à des résultats corrects. En clair, si effectivement de temps en temps on a des particuliers ou ça peut être une localité aussi qui souhaite développer un certain nombre de surfaces à protéger, s'adresse à nous au plan juridique, en termes d'acquisition et de gestion propre, je crois que la discrétion est de mise parce qu'on est tout de suite. Cette vocation de protéger s'assimile trop souvent dans le public à une interdiction de chasse, une interdiction de ceci, une interdiction de cela. C'est pas notre problème. Notre problème, nous, c'est de garantir et d'essayer de sortir le vivant, d'aider, d'accompagner le vivant qui a besoin aujourd'hui d'une surface de protection beaucoup plus importante, vu l'effondrement dont on nous serine les oreilles, qui est une réalité, mais sur lequel il ne faut pas s'arrêter. On peut être aussi positif et engager du positif.
Justement, je reviens à la question tout à l'heure sur ce qui permet de sélectionner ou de trouver le territoire convenable à vos yeux. Est-ce que ce sont des territoires qui n'ont eu aucune activité humaine en premier lieu, ou alors peut-être anciennement abandonnés
Alors là, je peux vous répondre sur deux plans. Effectivement, l'idéal pour nous, c'est de trouver quelque chose qui a déjà une vocation. Non, une évolution sauvage, entre guillemets. On ne fera que l'accompagner dans la mesure où on va protéger et empêcher toute intervention humaine sur ces surfaces. Quand je dis toute intervention humaine, je voudrais être précis, ce sont souvent des zones qui sont très peu accessibles et qui sont laissées abandonnées à un public non averti nous dirait « mais vos forêts, elles ressemblent à rien ». Il y a du bois mort partout. Je m'excuse, je vais être un peu trash, mais c'est dégueulasse. Non, c'est pas du tout ça. Là, on est sur le bon chemin. On est dans ce qu'on appelle la libre évolution. La libre évolution, c'est ce qui gouverne nos grandes réserves de vie sauvage, c'est-à-dire de laisser à la nature la conduite. Quand je dis la conduite, elle n'a pas besoin de nous, mais l'évolution complète des écosystèmes sur leur propre dynamique. On n'a pas besoin, l'homme n'a pas, à part à l'époque où il chassait, il cueillait, mais je ne vois pas en quoi aujourd'hui je suis susceptible d'aider un écosystème à évoluer, si ce n'est à le protéger de mes propres actions et de la pollution que je peux engendrer, qu'elle soit mécanique, qu'elle soit chimique, tout ce que vous voulez. Mais si je laisse cette nature à sa propre résilience, je suis à peu près sûr que les résultats qui en sortiront sont 10 fois supérieurs à ce que j'espérais en engageant cette protection. Deuxième point, des territoires qui ont déjà été marqués par, euh, par, le, par une forme de dégradation. Nous en avons un très bel exemple dans les réserves. On a cité en réserve extérieure à la Drôme, dans l'Hérault, la réserve de Rancasse. 200 hectares qui ont été récupérés par un personnage dont, malheureusement, j'ai perdu le nom, mais qui vous trouverez sur le site de l'ASPAS et qui mérite notre attention, dans la mesure où il a eu cette opportunité, et ça répond à une partie de vos questions, il a trouvé 200 hectares qui étaient complètement en déprise agricole, des terres qui ont été partiellement détruites pour faire du charbon de bois, pour faire un surpâturage important. Donc le surpâturage amène des dégradations sévères des sols, une érosion, enfin on ne va pas faire un cours de pédologie aujourd'hui, mais et également une espèce de monoculture de blé. Enfin, ces terres étaient typiquement appauvries et le milieu agricole dans son ensemble, la SAFER, personne n'a levé le petit doigt pour acquérir ces terres. 200 hectares, ne l'oublions pas. Ce personnage, je crois que ça fait 20 ans maintenant, il me fait penser à l'homme qui plantait des arbres de Giono. Il l'a fait la même chose. Et aujourd'hui, quand on en voit le résultat, encore une fois, vous pourrez voir la réserve de Rancasse sur le site de l'ASPAS, c'est tout à fait remarquable. Et cet homme est venu demander un appui à l'ASPAS parce qu'effectivement, sa réussite commençait à susciter quelques... Je ne sais pas si on peut parler de jalousie, mais quelques envies autour de ces 200 hectares. Et il avait besoin d'un cadre juridique fort pour protéger son action, et c'est ce qui a été fait. Et donc, on est très heureux. Elle n'a pas encore le statut de réserve de vie sauvage, qui est une appellation déposée par l'ASPAS, mais elle est considérée comme une de nos réserves qui a beaucoup d'avenir, parce que on a sous les yeux une forme de résilience forte de la nature. Voilà.
Plus proche de nous, il y a aussi cette grande réserve qui se situe au village auprès de Léoncel,
oui.
496 hectares. Et une partie qui a été créée, enfin, en 1983, au départ, c'était aussi un territoire qui a été conçu pour pouvoir chasser. Hein. C'était une ancienne réserve de chasse. Ouais. Cette évolution a fait qu'elle s'est agrandie. Et qu'est-ce qui vous a intéressé justement pour ce site en particulier ?
Alors, je ne connais pas l'historique exact. Je crois qu'encore une fois, on est venu frapper un peu à la porte de l'ASPAS le propriétaire précédent, j'aurais dû me renseigner avant de venir, mais voilà, le propriétaire précédent, je pense, s'est retourné auprès de l'ASPAS pour envisager... Alors, il faut préciser également, quand vous dites que c'était une réserve de chasse, c'était une chasse en enclos. Voilà quelque chose qui a pu décider l'ASPAS d'agir si on lui demandait d'acquérir ses territoires et ses hectares, parce qu'on s'oppose parfaitement à ce type de pratique, qui est une pratique complètement éhontée vis-à-vis du gibier. Chassé en enclos, c'est inadmissible.
Et d'ailleurs, je crois que le gouvernement a expressément demandé aussi à des propriétaires terriens d'enlever ces clôtures, surtout au lieu relativement par rapport aux incendies, hein, ce qui a causé de grands problèmes, de grands dégâts.
Mais c'est là où on frise le paradoxe et une forme d'aporie, c'est que... Ces chasses en enclos, elles sont destinées à un public privé, particulier, riche. Tout ce qui s'oppose à une pratique démocratique de la nature, pour ma part, hein, c'est ce que je pense. Mais au-delà de ça, au-delà du fric, pour faire plaisir à ce public, on y introduit des espèces exotiques. Et c'est le gros problème qu'on rencontre à l'ASPAS. On aurait très bien pu, à la limite, contrairement à notre vocation, se dire « Bon, on va rentrer dans cette réserve, on va tout flinguer, tout mettre à niveau, comme ça on a la paix, on retire les clôtures et la vie est belle. » Non, c'est pas du tout, l'état d'esprit. Et vous avouerez qu'on a un peu pédalé parce que c'est un très gros morceau, le VVS, le Vercors Vie Sauvage de Léoncel. Valfanjos. Et donc, on a choisi l'option la plus, le chemin le plus compliqué, mais surtout le plus propre. C'est-à-dire de respecter ces animaux, de trouver des accords avec des espaces qui pouvaient les accueillir, et pour une bonne partie d'entre eux, pour éviter justement des pollutions génétiques au cas, parce qu'entretenir, je peux vous le dire, entretenir 200 hectares de grillage, c'est pas simple quand vous avez de la neige et des arbres qui tombent. Donc on a une possibilité d'évasion du gibier qui est une source de pollution génétique, de croisement entre des cerfs SICA importés pour faire des cartons qui n'ont rien à faire dans notre région. Et bien d'autres choses, des daims, des mouflons, enfin, c'est un non-sens complet pour faire plaisir et consommer de la chasse, quoi. Donc on a pris le chemin le plus honorable, le plus propre, le plus éthique, qui est d'accompagner ces animaux au mieux, et après on retirera nos clôtures quand on n'aura plus aucun risque. Et je peux vous dire, parce que c'est quand même quelque chose qui est éminemment stressant pour notre action, on subit une pression énorme des milieux de la chasse, de l'administration autour de cette réserve. On est pratiquement en permanence montré du doigt. Je citerai à contrario certaines réserves, et notamment dans un pays où elles sont importantes, la Sologne, où de sources avérées, on sait qu'il y a pas mal de gibier qui s'évadent, et pour autant, on n'impose pas un plan de tir avec des lieutenants de louveterie dès que le préfet avant. Or, dans notre cas, sur Valfanjos, je crois qu'on est surveillé comme le lait sur le feu parce que nous sommes la SPAS. Et ça, je trouve ça dommage parce qu'en fait, nos objectifs sont propres. Et on n'a pas besoin de ça pour aujourd'hui sauver cette biodiversité. Ces combats d'arrière-cour, ce n'est pas notre objectif. Hein.
Et puis, il y a eu une double acquisition hein, pour ce terrain. Une de première de 240, puis une seconde de 250, ce qui vous a permis aussi de diluer un peu ce problème.
Oui et non.
Alors,
oui et non, parce qu'on a encore nos grillages. Entre guillemets, l'acquisition de la surface totale, imaginez qu'on ait eu là-dedans une faune, une grande faune, tout à fait normal et indigène, on n'aurait aucun problème pour retirer ces grillages et faire fonctionner les chaînes trophiques, enfin et équilibrer d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, d'une certaine façon, dans cet enclos, on est en face de pas mal de déséquilibres auxquels on fait face. Et quand je vous dis que le chemin n'est pas simple, ça fait partie aussi des paramètres sur lesquels l'ASPAS bouge et prend ses responsabilités. Inversement, la totalité de la grande surface, si on avait pu ouvrir nos enclos, cette réserve serait magnifique. Alors, je vais anticiper. Je pense que vous allez me poser la question d'une trentaine d'hectares.
J'allais y venir, mais j'avais encore une ou deux questions avant.
Allez-y.
Alors, justement, par rapport à la nature, quelle est pour vous la situation de l'homme, de l'humanité dans la nature ?
Ah, vaste question. Je vais répondre à titre personnel. Je pense aujourd'hui qu'on a deux êtres humains. Notre société est en train de fabriquer deux types d'êtres humains. Il y a peut-être encore des gens comme vous et moi qui ont conscience, quand ils sont dans une forêt, dans un espace libre, de ne pas être en position dominante, mais de se sentir dans un ensemble auquel on participe. Et puis vous avez toute une génération que je plains férocement et ardemment. Les mots sont un peu antinomiques, mais parce que ça exprime une colère un peu chez moi. C'est cette génération que j'appelle hors-sol, à laquelle notre société aujourd'hui amène une pratique de la nature qui est presque à nouveau, puisque nous sommes dans une société férocement consommatrice, on amène les gens à consommer de la nature. Et je reviendrai sur une chose qui m'a frappé. J'ai écouté l'autre jour l'interview de Christophe Morantin, qui à un moment donné s'est permis, j'ai trouvé sa démarche très, très empathique au niveau législatif, mais à un moment donné, il nous a mis un tout petit coup de patte en parlant de nos réserves qu'on préservait un maximum et qu'on vouait à l'écotourisme. Alors j'inviterai facilement Christophe Morantin, vous-même et quelques autres, à venir avec moi, aller voir ce qui se passe dans le Grand Paris. Si vous me trouvez, à un moment donné, un balisage quelconque, et voir souvent un sentier quelconque, alors venez vite avec moi, vous allez voir ce que c'est qu'une réserve de vie sauvage laissée en libre évolution. Et ça, l'écotourisme, c'est pas l'espace. L'écotourisme, je le laisse aux sentiers de grande randonnée, il en faut. Il en faut justement pour éviter cette génération hors sol dont on parlait. Il faut que c'est pratique et il faut que nos réserves puissent être accessibles aussi, je dirais, pour l'admiration de la nature. Mais on n'en fait pas des parcs nationaux avec des autoroutes pédestres. Ce n'est pas notre objectif. Nous ne sommes pas chez nous. Enfin, si, c'est à contrario. Quand vous êtes sur une réserve de vie sauvage, vous êtes chez vous. On vous y accueille. C'est pas qu'on vous y accueille, c'est que c'est la nature qui vous accueille. Vous participez à quelque chose. Mais ça n'est pas indu et je vois pas pourquoi moi j'irais modifier l'environnement pour mon bon plaisir.
Pour vous, cet endroit il est voué avant tout à la nature, à sa flore, à sa faune. Mais aussi, est-ce que c'est pour vous aussi le lieu de contemplation?
Alors... Oui, indéniablement, c'est une forme de contemplation. Enfin, oui, je dirais plus de respiration. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intime. Je crois que si on posait la question, je vois qu'il y a 5 ou 6 micros, là, et si on était 5 ou 6 intervenants, vous auriez 5 ou 6 réponses différentes. Moi, j'y suis très attentif. Cette contemplation, pour moi, elle est... Alors, je vais dire les choses... C'est plus souvent une attitude de pardon de ma part. Vous allez me dire que c'est une attitude judéo-chrétienne. Ce que vous voulez, ça m'est complètement égal. Le pardon existe. Au-delà, il a le droit d'être aussi laïque, ce pardon. Et j'ai tendance à... Cette admiration, c'est plus... Je remercie la nature de me permettre d'admirer ce qu'elle sait faire, ce qu'elle fait et ce qu'elle m'offre en permanence. Donc à moi de m'impliquer pour que d'autres puissent en profiter. Il est là mon engagement de bénévolat vis-à-vis de vous, vis-à-vis de mes petits-enfants. J'ai une dizaine de gaillards qui vont me suivre à une génération. Donc oui, il faut s'investir dans ce domaine. La contemplation, il ne faut pas qu'elle soit... Il ne faut pas qu'elle soit égoïste. Peut-être que mon engagement dans le bénévolat, c'est de partager d'avoir la possibilité de faire partager et comprendre cette contemplation, cette possibilité de contemplation.
Une réserve de vie sauvage, ça permet d'être aussi observé et de voir comment la nature se régénère d'elle-même.
Alors oui.
Et justement, est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent sur cet aspect-là?
Alors ça, c'est un débat intérieur qu'on a au niveau de l'ASPAS avec certains membres du conseil d'administration. L'ASPAS, c'est une femme relativement récente. Elle a 40 ans et très jeune. Et là-dedans, il y a eu plusieurs versions, possibilités éventuellement d'en faire de temps en temps des observatoires. N'oublions pas qu'on a des grands naturalistes dans le conseil d'administration qui sont des scientifiques et qui auraient... Effectivement, tout intérêt dans le sens de curiosité, à voir évoluer et réussir ces régénérations, ces résiliences qu'ils ont provoquées en créant l'espace. Je pense à Gilbert Cochet, à son épouse et à quelques autres. Oui, bien sûr. La question s'est posée, est-ce qu'on en fait, on pourrait, sur certaines réserves, en faire des laboratoires ouverts à des... parlons de scientifiques, hein, parlons de naturalistes universitaires et autres. Ça, c'est pas de ma compétence. Moi, je le souhaiterais dans la mesure où on disposerait de surfaces encore plus grandes. qui permettrait effectivement de rentrer dans ce cadre d'observation sans pour autant, en limitant au maximum les nuisances dues à ces protocoles d'observation. Il faut savoir que même quand on, nous, en tant que sentinelle, quand on se déplace dans une réserve, on est toujours attentif à ne pas y aller avec des groupes énormes. À part, peut-être, et en accord avec le siège, il faut qu'on soit pédagogique dans notre offre. Et la réserve la plus accessible, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la réserve des Deux Lacs, où on a eu cette année l'occasion, au moment de la fête de la nature, d'emmener des groupes, mais des petits groupes de personnes, on a une faune et une flore au moment de la fête de la nature qui est assez exceptionnelle. Et je pense que c'est une expérience qui rentre dans la sensibilisation du grand public. Pour revenir aux scientifiques, ça, je pense que ça, c'est au conseil d'administration de trancher l'affaire. Moi, je suis fanat d'ornithologie et de botanique. Ça ne me gênerait pas, moi, de me balader avec des gens compétents, mais c'est pareil, il faut... Moi, si, je crois que c'est important.
Je reviens sur cette fameuse histoire des 30 hectares, hein, oui. Comme vous aviez abordé tout à l'heure. Vous avez décidé de cesser ce partenariat avec cet agriculteur à l'accès de ces territoires. Est-ce que vous avez donné des raisons précises? On peut l'imaginer que effectivement la fauche induit des moyens mécaniques qui peuvent dégrader le sol. Est-ce que tout ça rentre en ligne de compte dans ce refus? Il y a eu une alternative, je crois, proposée, c'est celle du pâturage aussi, du bétail, ce qui vous semblait dire qui provoque aussi de gros dégâts au niveau des sols.
Alors je crois, je vais limiter ma réponse aux interventions que vous a fait Christophe Orantin, qui sont très bien faites. Deux points, cependant, son intervention que j'ai trouvée, moi, très... Allez, disons le mot consensuel... Il sait très bien que l'espace travaille en toute légalité. Je pense que de la part de l'éleveur, il y a une demande sur laquelle on a sans doute tergiversé pour des raisons internes qui ne m'appartiennent pas. Je vous ai dit, quand on en a parlé au téléphone, je n'ai pas forcément la compétence pour répondre sur ce genre de questions. Je sais simplement que l'idée historique, c'est que, conservons le volet de la légalité, il n'y a rien, mais absolument rien, qui permet d'acter à un moment donné la présence de cette exploitation sur les terres qui ont été acquises en parfaite légalité par l'ASPAS. Si je tiens compte de ce qui a été dit par Christophe Morantin à un moment donné, je sais que cet éleveur a lui-même abandonné l'idée de faucher à la suite des détériorations provoquées par le gibier. Je reprends ces phrases, je crois que je ne me trompe pas. Donc, ces prés qui étaient des prés de fauche ne sont plus fauchés. Quant au pâturage, je crois qu'il n'y a jamais eu de pâturage sur ces terres. Donc,
je reviens sur l'idée du pâturage qui était une alternative au fauchage.
Alors,
voilà, ouais, de trouver une alternative ou de trouver une solution à ce problème.
Non, je crois que ça a été tranché. Ça a été tranché pour X raisons et en particulier. Enfin, une des raisons pour lesquelles c'est tranché, je vous renvoie à la lecture du communiqué écrit qui a été fait par la Confédération paysanne. J'en suis attristé parce que je trouvais que le discours de Christophe Morantin était constructif. Mais quand je vois... Je vais vous donner simplement le titre de la communication de la Confédération paysanne dans un des quotidiens ou hebdomadaires local. Expulsé... Je vous prie de m'excuser, j'ai simplement besoin de lunettes. Voilà. Expulser des paysans de leurs terres au nom de la protection de la nature est inacceptable. Alors déjà rien que le titre, qui est un titre hyper polémique, m'amène à me dire, moi tout simplement, mais attends, tu es bénévole, c'est pas à toi de répondre. Et effectivement, le conseil d'administration a répondu clairement à la Confédération paysanne en lui demandant le retrait de cet écrit. Que ce soit fait ou pas, je ne sais pas. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on mette un terme à cette polémique. Alors, maintenant, revenons à...
Ça, c'est... je veux bien la mettre, hein, le terme. Hein. On sent bien que c'est un sujet qui est passé. Par contre, l'inquiétude est aussi, est-ce qu'il y aurait tendance à acquérir d'autres territoires et qui pourraient aussi résoudre... est-ce que, justement, il n'y aurait pas eu un manque de concertation avant ces acquisitions, de manière à ce que tout le monde puisse trouver un bénéfice?
Alors, pour ce... Pour le cas de Léoncel, je vous accorde le bénéfice du doute. Peut-être n'y a-t-il pas eu assez de consultations et je ne le sais pas. Donc je suis peut-être mal avisé de prétendre ça. J'en reviendrai à d'autres potentielles acquisitions qui étaient à l'étude. Je me suis rapproché du pôle milieu naturel et nous en avons parlé. Alors, je ne citerai pas les lieux, mais dans les deux cas... Il y avait effectivement des surfaces agricoles en cause. Et dans l'un des cas, sur le sujet qui recoupait une surface relativement importante près d'une commune, il y avait une vingtaine d'hectares qui étaient alloués à des pâturages de brebis. Et la proposition qu'avait fait l'ASPAS, qui n'a pas été retenue, mais on a été en fait non pas débouté, mais c'est quelqu'un d'autre qui a acquis les surfaces. On avait dans notre proposition, dans le montage de notre proposition, sorti ces 20 hectares parce qu'ils sont en exploitation. Il n'y a aucune raison d'aller neutraliser 20 hectares qui faisaient l'objet d'un bail, qui était quelque chose de parfaitement légal et nécessaire pour cet éleveur. On avait simplement proposé de dire « Ok, on prend la partie boisée, parce qu'il y avait une surface importante de plus d'une centaine d'hectares, peut-être, je ne sais plus exactement, de bois, et on construit, on conçoit notre réserve autour de ce milieu. Et on laisse à l'agriculture ces moyens de travail. » Je crois que l'idée de l'ASPAS, ça n'est pas d'aller se confronter à des syndicats paysans et aux éleveurs. C'est pas notre vocation. Notre vocation, c'est de sauvegarder le vivant. Sauvegarder le vivant, je pense que s'il y a un syndicat agricole qui est bien placé pour le faire, c'est la Confédération paysanne. Et je pense qu'il vaut mieux s'adosser mutuellement l'un sur l'autre pour avancer que se confronter.
Je crois que c'est une notion réciproque. Et comment découvrir l'ASPAS? Il y a son site internet. Est-ce que vous aussi, vous intervenez au niveau du public? Je parlais justement de cette ouverture au public. Vous vous adaptez ou vous participez à des événements, des festivals par exemple?
Alors... ça, c'est une bonne question, parce qu'on nous dit souvent vous êtes pas connu, vous êtes assez discret. Alors moi, je l'accepte, parce que j'avouerai sincèrement que l'ASPAS, j'ai été la chercher, elle n'est pas venue, elle n'est pas tombée dans mes bras. Et donc, depuis qu'on a cette délégation Drôme, qui a mis du temps à venir parce que tout était sur place avec le siège, avec les pôles responsables des différentes activités. Tout fonctionnait et roulait, je dirais, ronronnait gentiment. Mais est-ce que les gens et les salariés, qui ont une charge quand même relativement importante, et non pas relativement, mais importante de boulot, devaient en plus aller faire de l'animation scolaire, du festival de week-end, ça paraissait assez difficile. Alors que quand même, l'ASPAS est présent dans pas mal de manifestations, ne l'oublions pas, à travers ses délégations départementales, et ce, au niveau national. Il y a des grands festivals auxquels on participe et des activités départementales sur lesquelles on est présent. On était moins présent et moins visible sur la Drôme. Et je pense que les choses vont bouger dès cette année, vraisemblablement, pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y a, depuis... Elle a un an, cette délégation drômoise, le temps qu'elle se mette en place, qu'elle prenne ses marques. Et je pense qu'on a la volonté, effectivement, d'être présent aussi bien sur des journées d'action... Je rappellerai cette année qu'on a été présents, on a eu la journée mondiale du blaireau, on a eu un tas de choses où on était très très présents, on a participé à la fête de la nature, on commence à bouger, mais au niveau délégation. Et je pense qu'on a cette chance de pouvoir s'appuyer sur le siège qui est proche de nous, avec tout le matériel de communication et les moyens de communication qui sont mis à notre disposition. Donc ça va bouger.
Eh bien, Hervé Jasson, je vous remercie d'être venu nous parler. Je ne vous ai pas posé la question. Qu'est-ce qui vous a amené à être au sein de cette association? Est-ce que c'est par votre activité professionnelle?
Ah, pas du tout. Pas du tout. J'ai toujours eu un goût prononcé pour la nature, mais je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement. D'abord, je suis originaire des Ardennes. Et donc, je pense que c'est un lieu privilégié puisque j'étais dans la partie forestière des Ardennes et jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc, j'en ai 70 aujourd'hui et je garde un souvenir solide de mon lieu de naissance. Très rapidement, je me suis intéressé à l'ornithologie et plus récemment à la botanique. Alors, je ne suis pas un grand naturaliste, j'en suis même pas un du tout. Je suis un amateur qui essaye d'être éclairé et surtout qui est passionné. Alors comment et pourquoi l'ASPAS? Ça, je vais vous répondre en deux mots, c'est très simple. Au départ, l'ASPAS, il y a deux volets. Il y a cette préservation des animaux sauvages qui est, je dirais, évidente, qui a été le moteur de création de... Il y a un deuxième volet tout aussi important qui s'appelle les réserves de vie sauvage. Et je vais être très franc avec vous. Passionné d'ornithologie, ça ne veut pas dire être passionné forcément par la grande faune. Donc, je vais commettre un impair. Si les gens de l'espace m'écoutent, ils vont me taper sur les doigts. Moi, l'histoire du renard, du blaireau, tout ça, c'est bien. Mais ce n'était pas forcément mon truc. Par contre, qu'on puisse... de façon claire, précise, assurer aux renards et aux blaireaux un environnement accueillant, solide, non pollué, préservé, là, quand j'ai vu ça, j'ai dit j'y vais tout de suite. Et je dirais que moi, mon moteur à ASPAS sont les réserves. Voilà.
Hervé Jasson, je vous remercie et bonne soirée.
Merci à vous.
Au revoir.